Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
Voilà, il était 15h10 à peu près hier à l'Assemblée nationale lorsque Elisabeth Borne a annoncé qu'elle enclenchait le 49-3. Esprit libre avec Bruno Jeudy et Jean-Marie Colombani. Je le répète, question à vous deux qui avez une longue expérience de la vie politique française. J'ai pas dit une trop longue expérience, Jean-Marie, j'ai dit une longue expérience. Une journée comme celle d'hier, vous en aviez vécu très franchement beaucoup?
Ah non, avec le chahut qu'il y a eu, non, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet de préoccupation parce que ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, c'est pour le coup un déni de démocratie parce que vous empêchez l'orateur de parler, vous manifestez avec un irrespect total de l'institution. Et vous faites abstraction du fait que les paroles que vous prononcez, la colère que vous exprimez, elle se transmet à la société. Vous pouvez pas prétendre que la violence que vous exprimez là ne va pas être, dupliquée à l'extérieur de l'Assemblée nationale. Donc c'est en tout point irresponsable en termes de comportement, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a peu connu de séances de cette nature. Ou alors, il faut remonter très très loin dans l'histoire et remonter à la période révolutionnaire, peut-être. Mais c'est ce qu'espère un certain nombre d'insoumis.
Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui était justement au-dessus de ses députés. On avait effectivement le sentiment qu'il tirait les ficelles comme si ces députés de la France insoumise étaient des sortes de marionnettes dans les mains de Mélenchon. Bruno, votre première réaction quand vous avez vu qu'Elisabeth Borne dégainait le 49-3?
Alors d'abord, je n'ai pas été surpris parce que moi, depuis plusieurs jours, je disais à moins de 5 voix d'avance, faut être fou pour aller au vote, malgré tout ce qu'on pouvait entendre. Mais si, il vaut mieux aller au vote et perdre. Moi, je crois que la Constitution met à la disposition du Premier ministre la possibilité de passer par 49-3. Ce n'est donc pas anticonstitutionnel, encore moins illégal. Donc bon, moi, j'ai pas été surpris. En revanche, j'ai été surpris par le fait que le gouvernement ne prépare pas mieux les esprits à l'utilisation ou recours au 49-3. On a l'impression qu'il s'est acharné même à le rendre, encore un peu plus illégitime, entre guillemets, dans l'esprit, presque des Français. D'ailleurs, cette arme du 49-3, dans l'histoire, on voit, elle a évolué. Maintenant, c'est devenu le mal absolu. Je rappelle, que c'est dans la Constitution, donc depuis les origines, que nos voisins ont aussi des dispositions de vote bloqué, de vote forcé, en Allemagne et dans d'autres pays, ça fait partie aussi de la possibilité pour avoir une stabilité politique et gouvernementale. Donc moi j'ai été plutôt surpris par le fait que le gouvernement jusqu'au bout, Elisabeth Borne a envoyé ses ministres pour faire en sorte que non, pas du tout, nous n'utiliserons pas l'article 43. Donc ils ont ajouté, un élément qui effectivement a rendu la situation complètement explosive. C'est-à-dire, au moins sur le plan politique, hier après-midi.
Jean-Marie.
Ils l'ont dramatisé, le 49-3, alors qu'il fallait le banaliser et en faire une arme ordinaire. Au lieu de quoi, cette dramatisation a été saisie par ses adversaires pour dramatiser encore un peu plus. Et ce qu'il faut voir, c'est l'évolution même du 49-3 est intéressante parce que au point de départ, c'est parfaitement en effet admis par l'opinion. Il faut peut-être d'ailleurs rappeler que une des contraintes sous laquelle nous sommes, c'est-à-dire la CSG, Michel Rocard l'a fait passer au 49-3. Il y a donc des réformes importantes qui passent par le 49-3.
Mais pour les Français aujourd'hui, plus vécu comme faisant partie de la Constitution.
Ça s'est transformé petit à petit en arme. Ça s'est transformé petit à petit en symbole de brutalité. Et le tournant, c'est la loi El Khomri. La loi travail de Mme El Khomri et qui, quand Manuel Valls utilise le 49-3 pour faire passer cette loi, il y a une forte manifestation dans la rue, c'est là que cette coloration brutalité se prend et ne quitte plus les Français puisque tout le monde a observé que les popularités des premiers ministres et notamment de l'actuelle première ministre est indexée sur l'utilisation du 49-3 et qu'elle qu'elle décroche dans l'opinion à compter du moment où elle utilise le 49.3. Donc c'est devenu quelque chose qu'on ne peut plus ou qu'on ne peut plus utiliser que vraiment, j'allais dire, à la dernière extrémité.
Motion de censure en tout début de semaine prochaine. On va éviter les pronostics à partir de maintenant. Mais celle déposée par le groupe Liotte, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, portée notamment par Charles de Courson, elle peut faire trembler le gouvernement, Bruno?
Ah ben, il faut tout surveiller.
Ouais.
Il faut faire attention. C'est vrai que sur le papier, il faudrait quand même qu'une grosse moitié des députés LR, les revoilà, vote cette motion de censure. Donc oui, il faut tout surveiller. Elle est assez étonnante, cette motion de censure. C'est un truc attrape-tout avec à sa tête un député centriste qui fut autrefois le roi de l'orthodoxie budgétaire et qui maintenant est devenu un opposant farouche. Un opposant farouche à cette réforme des retraites qui quand même au départ est là pour aussi boucher des trous financiers, hein, donc pour assurer la pérennité du régime des retraites. Donc c'est assez étonnant, mais on est dans une période où tout est possible. Je n'y crois pas trop, mais il faut s'abstenir de faire trop de pronostics.
Elisabeth Borne, son avenir dépend de la motion de censure, mais vous pensez, si par exemple cette motion de censure est rejetée, vous pensez tout de même que son avenir à Matignon, Jean-Marie, est encore tenable?
Non, vraisemblablement pas, parce que le problème, la démonstration qui a été faite, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de majorité élargie. On reste dans le périmètre d'une majorité relative. Sans soutien au-delà, ça veut dire que le gouvernement va être sérieusement empêché, sauf à recourir systématiquement en effet au 49.3, ce que par la Constitution il ne peut plus, puisque le 49.3 ne peut plus s'utiliser couramment, si j'ose dire, que sur des textes budgétaires. Donc non, elle est privée de... Et d'autant qu'elle avait lié au fond... Elle avait elle-même, au fond, lié son sort à cette capacité à trouver une majorité autour de ce texte. Elle l'avait trouvé, semble-t-il, au mois de janvier, lorsqu'elle a passé un accord avec Éric Ciotti et le président Marleix du groupe LR. Et manifestement, ces deux-là n'ont pas été suivis par leurs troupes. Mais elle pensait être arrivée au bout de sa négociation. Et alors là, on peut évidemment la renvoyer au procès que fait Laurent Berger de la CFDT, disant « Oui, ce gouvernement a choisi d'abord de chercher un accord politique, un compromis politique sur la réforme des retraites, plutôt qu'un compromis avec les forces sociales. »
Franchement, Jean-Marie, un compromis sur avec les syndicats, à partir du moment où les uns disent « C'est 64 ans », que les autres disent « on ne veut pas de 64 ans », comment on peut trouver un compromis?
Et voilà, c'est toute la question. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas trouver de compromis là-dessus. Mais cela dit, il y a quand même des éléments qu'il faut rappeler. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'il faut se souvenir qu'à la fin du premier quinquennat, une réforme des retraites à points est votée en première lecture. Et elle est en première lecture, donc elle attend de faire la navette.
Ouais.
Et puis arrive la Covid et le virus. Et donc tout est stoppé. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas repris ce texte-là, qui était la base d'un accord avec un certain nombre des forces sociales, notamment avec la CFDT de Laurent Berger? Au lieu de quoi, peut-être sous l'influence d'Edouard Philippe à l'époque, mais en tout cas, au lieu de quoi, il bascule vers le déplacement de l'âge. Et ça, on sait que ça provoque, c'est un chiffon rouge pour toutes les organisations syndicales. Donc là, pour moi, ça, c'est un mystère.
Bruno, l'avenir d'Elisabeth Borne, très franchement.
Bah, sur le papier, je rejoins Jean-Marie, elle est plus qu'en sursis. Elle a manqué ses paris, elle n'a pas réussi à mettre en œuvre cette nouvelle méthode de concertation que le président appelait de ses voeux.
Elle va servir de fusible. Hein,
Est dans le... D'ailleurs, elle dit elle-même, j'accepte d'être le fusible. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est plutôt que peut faire Emmanuel Macron qui se pose. Parce qu'au-delà de la seule question d'Elisabeth Borne, qui n'est pas la plus essentielle, c'est celle Emmanuel Macron. Ça fait seulement 11 mois qu'il a été réélu. Il reste un peu plus, 4 ans et 1 mois. C'est long. Et surtout, que peut faire Emmanuel Macron, qui est plus guetté par la chiracisation aujourd'hui que par un agenda de réforme costaud?
Une dissolution?
Mais non, je ne crois pas à la dissolution. Une dissolution pour un président qui n'est pas soumis à réélection, je ne vois pas l'intérêt. Je lui conseille même de ne pas la faire, parce que la dissolution, c'est peut-être faire revenir 150 députés RN, moi je crois. Et ça pourrait vraiment tourner très mauvaise mayonnaise. En revanche, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est il peut changer Elisabeth Borne, mais il va mettre qui à la place?
Ouais.
Qui est capable de trouver des majorités à l'Assemblée aujourd'hui? À mon avis, dans son camp, personne. je ne vois pas qui.
Donc c'est le vide en quelque sorte. Là, on est quand même dans une impasse totale du côté de l'exécutif.
La relance du quinquennat passe sans doute par un nouveau casting, mais alors là, il va falloir
en même temps, on avait tous découvert
Jean-Marie.
On avait tous découvert Jean Castex. Il s'est pas si mal débrouillé que cela.
Très bien débrouillé.
Venant de,
il y avait une majorité.
Mais aussi.
Majorité
absolue.
Il y avait une majorité, Jean-Marie.
C'est vrai.
Ça aide.
Ça aide. Et là, il y a une majorité.
C'est retour à la case départ du deuxième tour des législatives.
Oui, tout à fait. Mais il faut d'ailleurs remonter à la campagne présidentielle pour trouver l'explication de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que dans la campagne présidentielle, l'objectif évidemment d'Emmanuel Macron était d'être réélu. Et pour être réélu, il pensait qu'il lui fallait affaiblir Valérie Pécresse. Et pour affaiblir Valérie Pécresse, il a mis en avant une des premières mesures prônées par Valérie Pécresse, c'est-à-dire la retraite à 65 ans. Et donc, il s'est enfermé là, pensant qu'il tenait pour la suite un accord, la possibilité d'un accord politique et d'un accord de gouvernement avec les Républicains et avec la droite. C'est tout ce schéma qui est balayé. Et donc, il est au fond rattrapé par les conditions de sa réélection. Il a été réélu, certes, mais d'ailleurs, il a été réélu il y a 11 mois. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que beaucoup plus de temps est passé que ces 11 mois-là?
Alors, vous parliez de la droite. Je vous propose d'écouter Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée. Il était sur RTL il y a quelques minutes. Si ce n'est pas passé, évidemment, ce n'est pas de leur faute.
C'est un texte du gouvernement, c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui sont responsables de la méthode. Nous, sur le fond, je pense qu'il y avait une majorité du groupe qui aurait voté ce texte. Après, visiblement, c'était pas suffisant. Ils n'ont pas su convaincre, y compris d'autres groupes. Quand je vois la façon dont ce petit groupe, Lyot, d'une vingtaine de députés, était totalement radicalisé dans ce débat, c'est absolument incroyable. Donc, cette réforme, elle paye d'abord l'absence de pédagogie et l'absence de dialogue social autour du projet de réforme.
Il y a une image absolument extraordinaire hier, c'est Éric Ciotti qui dit « on ne votera aucune motion de censure ». Deux minutes plus tard, on voit Aurélien Pradier qui dit « mais on va faire ce qu'on veut, on va voter si on a envie de voter, chacun prendra sa responsabilité ». Et lui-même disait « je m'interroge ». Est-ce qu'il y a encore un pilote pour sauver l'avion LR, Bruno ?
Non, ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a pas de pilote pour sauver l'avion LR, pour répondre précisément à votre question. Et c'est vrai que ce groupe LR à l'Assemblée donne une impression d'auberge espagnole où tout y est, le tout est son contraire. Je crois qu'au fond, de toute façon, la faute incombe d'abord au gouvernement, ça c'est vrai, mais elle incombe aussi en partie à LR, qui avait passé un compromis par la personne d'Éric Ciotti, Jean-Marie l'a rappelé à l'instant. Mais surtout, ça démontre qu'on peut pas être au fond dans ce régime du en même temps, on peut pas être à la fois dans l'opposition et dans la majorité. Je crois que c'est impossible. Donc LR, la figure qui se préparait était compliquée. Après, on pourra toujours se dire qu'il y a vraiment un énorme problème de cohérence politique dans ce parti. Comment expliquer qu'au Sénat ils votent la réforme et qu'à l'Assemblée ils soient pas capables de la voter majoritairement? Ça tient au fait que LR a perdu beaucoup sa boussole sur bien des sujets et pas seulement sur les retraites.
Le 23 mars, c'est une nouvelle journée hein, d'ailleurs pour les syndicats. C'est une journée qui va être pour vous décisive, Jean-Marie. Alors je sais qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation, on dit c'est décisif. Mais là, vu le contexte.
C'est vu le contexte, on va évidemment mesurer si la machine est relancée, parce que ce qu'offre le 49-3 aux partenaires sociaux, c'est évidemment de remettre du charbon dans la chaudière, puisque ça relance en fait. Ouais. Évidemment, la critique, la contestation et les manifestations. Donc, on saura cela. Alors même que le mouvement semblait quand même s'essouffler dans la dernière période. Et donc, il semblait même, d'ailleurs, c'est là qu'est le paradoxe aussi, il semblait même qu'une large partie de l'opinion considère que, bon, je suis contre, mais elle va être votée.
Mais Laurent Berger laissait même entendre que s'il y avait un vote et que ça passait,
c'est la doctrine de la CFDT. La CFDT respecte les institutions, respecte la loi, et donc ce serait plié en effet au vote, tout en mettant d'autres sujets sur la table, ce qu'elle était en train de préparer. Là, on est dans un cas de figure où la mèche est rallumée et donc on ne sait pas du tout ce que ça peut donner.
Bruno.
En tout cas, il y aura une démonstration de force le 23, ça c'est clair.
Bruno, effectivement, ça le 23, c'est une journée clé.
Je sais pas si elle est clé. Moi, je crois que le mouvement commence à s'essouffler, ne serait-ce que pour des raisons simplement pratiques pour les Français qui manifestent et qui font grève. C'est-à-dire que la grève coûte. Ces journées de mobilisation qui s'accumulent ont un poids financier important. Et dans cette période inflationniste, on voit que le mouvement ne s'essouffle pas seulement parce que les gens fatigueraient à aller se mobiliser. Non, il y a aussi un problème de coût. Donc je crois que le paradoxe de cette situation, c'est qu'il y a un risque de radicalisation. On l'a vu hier soir, place de la Concorde. Mais il y a aussi un essoufflement lié à la durée du mouvement et au coût financier que ça représente.
Merci Bruno, merci Jean-Marie. Bruno Jeudy, Jean-Marie Colombani dans Esprit Libre ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour le journal et pour la météo. Excellent week-end.